Donc, je reprends en deux mots ce que j'ai dit ce que j'ai pas eu le temps de dire ce matin. C'est-à-dire que l'idée est simple. Comme vous voyez, le fameux ivoire de Dijon du 6e siècle représente le Christos Didascalos. Il s'agit donc déjà dans une forme enfin, quasiment médiévale, n'est-ce pas, les perspectives inversées, les plus grands que les disciples devant, surtout, etc. Donc tout ça est très clair. Ce qui est important, c'est de comprendre l'origine de la composition de l'icône de la Pentecôte, dans le sens où, si on enlève d'ici, cette donc, composition existe en masse dans les catacombes, n'est-ce pas, et jusqu'au moment où elle va exister, où apparaît l'icône proprement dite de la Pentecôte. Alors, on enlève le Christ et on a l'icône de la Pentecôte en mettant les flammes sur les têtes des apôtres. C'est très clair. Maintenant, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'icône de la Pentecôte est une icône, est une scène d'enseignement. Et donc, la Pentecôte, l'icône de la Pentecôte que vous voyez ici en bas, passe dans le clou d'œuf, est l'icône du magistère du Saint-Esprit. La présence invisible du Christ parmi les apôtres est le magistère du Saint-Esprit. Alors, il n'est pas un hasard que, on va sauter les autres icônes, mais quand même au moins une que Yost a mentionnée. Voilà. Yost a relevé avec astuce, de façon astucieuse, le fait qu'effectivement, n'est-ce pas, le fait que tout le monde est sur la même exèdre peut être interprété comme une sorte de collégialité apostolique où chaque évêque occupe la cathédrale piétrique. Bon. Alors, au milieu, la place est vide, la présence invisible du Christ dans cette scène d'enseignement, donc le magistère du Saint-Esprit, et maintenant, ce que nous n'avons pas vu ce matin, c'est que l'icône de la Pentecôte est aussi à la base des compositions qui représentent les conciles. Et donc, je remercie le Père Legrand pour ce rappel. Pardon. Oui, ça, c'est juste, n'est-ce pas, pour montrer qu'en Occident, on suivait à grosso modo les choses, n'est-ce pas, mais on avait. Le manuscrit de Cluny du XIe siècle où on voit déjà, n'est-ce pas, des formes pétriniennes apparaître, hein, puisque justement. La place vide du milieu est occupée par Saint-Pierre. Donc, aussi simple que ça. Et quand j'ai montré ça au congrès liturgique chez nous, les participants catholiques m'ont félicité. Il fallait un orthodoxe pour montrer ça. Alors, mais en ce qui concerne les conciles, nous avons ici une miniature du même manuscrit 510 de la Bibliothèque nationale, il est clair que, vous voyez l'exèdre avec l'étymasie, et l'étymasie, n'est-ce pas, et l'évangile, et une colombe si possible, hein, sur ce trône, au milieu, la place est vide, est occupée par un symbole de la Trinité. Donc, c'est une façon, assez spectaculaire pour résoudre le problème du proestos du concile. Hein, c'était la question du Père Legrand.
De quelle époque est le manuscrit?
Alors, le Père Legrand, moi, je pense qu'il a été confectionné sous Photios, ce que j'ai essayé de montrer au congrès byzantin de Washington, à Tombouctou Oaks, il y a un certain nombre d'années. Et ça a été accepté. Parce qu'il y a plusieurs choses qui font. Et c'est très ecclésiologique, c'est le manuscrit 510 de la Bibliothèque nationale de Paris. Il est dans très mauvais état, mais enfin bon.
Vous voyez donc. Alors, qui est représenté donc, en première ligne de l'hémicycle, il y a la place centrale, c'est l'étimacy, le trône préparé. Ici, il y a l'empereur, et on, avec enfin, aussi quelques évêques, et là, que des évêques. Donc, je dis que c'est une façon spectaculaire de résoudre le problème de la présidence, parce qu'il y a, en fait, personne n'est mis en valeur. Et je dirais que, dans ce sens-là, enfin, comme j'ai dit ce matin, nous savons que le pape de Rome était... Ça se fait comme ça historiquement. Les premières fois, il ne pouvait pas venir, puis c'est devenu l'habitude, et puis il était toujours représenté par des légats, même jusqu'au 7e. Ces légats, il est vrai, jouaient un rôle très important. On mettait les formes, soi-disant, on savait le faire. Et même, on leur demandait de signer en premier lieu, etc. Enfin, ils étaient dans le corps, et il n'y avait là-dessus aucun doute. Celui qui... Regardez, c'est intéressant. Parce que l'héritage antique, ça pèse. Qui est le seul à avoir un nimbe ici? C'est l'empereur. Parce que le nimbe faisait partie, n'est-ce pas? Tout ce qui était impérial était sacré. Donc, un siècle plus tard, dans l'image... Donc ici, il s'agit du deuxième concile d'Efterata.
Donc, il n'y a pas d'occidentaux.
C'est
triste. Je dis en passant.
Moi, je trouve que c'est énorme. C'est
non, pas du tout, mais je dis en passant. Il ne faut pas chercher.
Mais non, ici, par contre, nous avons Macédonius, n'est-ce pas, l'hérétique. Bon, alors.
Deuxièmement, la représentation date de 6 siècles après le Concile.
Oui, mais.
Et
c'est
en plus,
c'est
à l'époque où il y a une division entre l'Église d'Occident et d'Orient. Donc, il faut quand même le préciser, le contexte.
Je disais que c'est un manuscrit très, très. Il y a plein de choses à trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est la filiation de cette iconographie de la filiation de l'icône de la Pentecôte. Alors, je veux revenir parce que j'ai oublié une chose. Quand on regarde cette icône-là, parce qu'on a parlé, n'est-ce pas, de taxis. Bon, prenons celle-là, ça fait rien, ou la précédente. Elle est plus claire. Vote. Regardez, bien sûr, il y a la place vide. Mais qui est en haut de l'échelle? Pierre et Paul. Pas Pierre seul, pas ça, non, ça passe. Mais Pierre et Paul. Et puis il y a un taxi. Bon, il y a de la place, on peut toujours. Donc ça ne veut pas dire que. Il faudrait interpréter théologiquement quand on va écrire sur cette icône. Enfin, voilà, Pierre et Paul sont en haut. Il y a, je n'ai pas montré, à Montréal, il y a ici André. C'est toujours la même idée, n'est-ce pas, qu'on voulait aussi parler d'André. Mais c'est rare. Le canon veut que ce soit Pierre et Paul et qu'ils soient en haut. Bon, ça veut dire quelque chose. Maintenant, le dernier, et ça c'est vraiment le dernier, c'est dans le Ménologe de Basile II, donc un siècle plus tard, il se trouve maintenant dans la bibliothèque du Vatican. C'est une miniature qui illustre le 7e concile, mais en fait, la miniature elle-même représente le 1er concile. Ça, c'est une question un peu technique. Il y a donc Arius par terre, il y a un exèdre. Je vous ferai remarquer que la structure des scènes d'enseignement est tellement bien conservée qu'elle remonte, comme vous savez, sans doute aux scènes des disputes et des enseignements de l'Antiquité, les 7 sages en dispute savante. Alors vous avez ici 3 évêques, là 3 évêques, et comme évêque extérieur, l'empereur. Mais le centre est aussi vide. Il y a la croix. Donc, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que à propos des conciles, qui sont... Qu'est-ce que c'est les conciles écuméniques? C'est des moments d'enseignement charismatique. L'Église enseigne, n'est-ce pas? L'Église répond à des hérésies. Donc, il est logique qu'on est dans la continuité de l'image de la Pentecôte. On est adopté une scène d'enseignement. Et c'est ce que je voulais dire ce matin, c'est que le Père Nicolas, quand il dit icône de cercle, icône de l'Église, Et il pense qu'à notre façon de célébrer, c'est un peu vu court, parce que nous avons dans la tradition de l'Église des éléments qui nous renseignent sur des notions et qui ne sont, comme par hasard, et je pense que c'est maintenant évident, pas liés à la problématique du proestos, qui évidemment, si on fait de l'ordre du typicum de l'Eucharistie le seul modèle de l'Église en tant que telle, bien sûr, on aura toujours affaire au proestos. Mais disons qu'il y a d'autres formes et qui restent tout à fait importantes et qu'il ne faut pas oublier. Je vous remercie.
Est-ce que...